Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. Bonjour, alors, bienvenue dans ce podcast où je vais, avec beaucoup d'ouverture et d'authenticité, vous parler de quelque chose que j'apprivoise et qu'on est un paquet à apprivoiser en ce moment, c'est-à-dire la crise du mi-temps de la vie. Et la première fois que j'en ai parlé, c'était sur une story Instagram, juste pour positionner les choses et en parler en toute... le mot qui me vient, c'est vulnérabilité, mais je ne me sentais pas forcément vulnérable. Je me sentais comme en exploration de quelque chose qui était inconfortable et sur lequel je mettais des mots pour vous le partager parce que si je le vis dans mon étape développementale normale d'adulte, au mi-temps de la vie, forcément vous êtes plusieurs à le vivre aussi. J'étais étonnée de voir que toucher des personnes qui étaient autant dans leur, entre guillemets, crise, la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine. Moi, j'imagine que c'est la quarantaine avec l'âge que j'ai. Mais donc, du coup, en parlant un peu plus ouvertement, j'ai vu à quel point ça avait touché, d'une part, et à quel point aussi on ne se permet pas d'en parler. Pour ma part, je suis en observation, presque en émerveillement aussi, de voir comment mon intérieur est en train de se transformer. Puis quand j'ai fait une réflexion, plutôt une introspection plus méditative là-dessus, ça m'a permis de m'intéresser à quelque chose que j'avais déjà appréhendé dans mes études, c'était les étapes développementales. Mais là, je suis allée beaucoup plus loin parce que, par le jeu des synchronicités, je vais vous en reparler, j'ai suivi une formation avec une de mes amies et je suis allée chez elle suite à la formation et en fait elle a fait son doctorat sur la crise du mi-temps de la vie et les déesses grecques. Donc c'était vraiment parfait, elle m'a prêté sa thèse, j'ai lu les parties qui m'intéressaient en lien avec le cadre théorique sur les étapes développementales de l'adulte et les déesses grecques et en fait ça m'a donné vraiment un cadre de référence sur lequel me baser pour venir me comprendre et venir finalement m'observer. Et comme je dis avec émerveillement, je pense que le mot est quand même assez juste. Parce que j'essaye de ne pas être en résistance par rapport à tout ça, mais plus en acceptation. Puis j'ai utilisé le mot « j'essaye », mais je pense que je le suis. Et c'est ça. Donc je me vois aller avec recul dans cette étape où une nouvelle carapace est en train de... l'ancienne carapace est en train de craquer pour laisser la place à un autre type de moi. Donc, ce que j'avais envie de faire, c'était de vous parler rondement d'un petit peu les conclusions que j'ai tirées et les principes que j'ai appris grâce à mon amie Chantal Tremblay, donc, qui a écrit sa thèse là-dessus il y a une dizaine d'années. Et je vais quand même aussi inviter Chantal, c'est un projet qu'on a depuis super longtemps, pour qu'elle vienne vous parler plus en profondeur des déesses grecques et de la crise au mi-temps de la vie. Donc, mon introduction était un peu décousue parce que j'ai comme suivi un filon, puis je ne suis pas revenue au point de départ. Mais je vais donc tout de suite aller dans le vif du sujet. Sur les étapes développementales. Donc, quand j'ai commencé à comprendre c'était quoi les étapes développementales, ce que j'ai vu, c'est que, peu importe les auteurs, le mi-temps de la vie se situe aux alentours de 40-45 ans. Et il y a toujours comme un basculement à ce moment-là, un basculement que je trouve quand même très prometteur parce que c'est enlever finalement des vieilles identités qui étaient beaucoup tournées vers l'extérieur. C'est d'ailleurs ce que nous dit Jung, qu'avant la quarantaine, on est tourné vers l'intérieur, vers l'extérieur et qu'à partir de la quarantaine, finalement, il y a le processus d'individuation, donc de reconquête de ses propres repères intérieurs qui s'opère. Et on le voit chez d'autres auteurs aussi qui nous montrent que on lâche un peu l'ego à partir de la quarantaine. Tu sais, par exemple, il y a une typologie qui parle de « on cherche des mentors avant la quarantaine, on devient un mentor à partir de la quarantaine ». Puis ça, je l'ai vraiment senti. Tu sais, même chez mes clientes, le mot « mentor », il est ressorti depuis depuis quelques années. Mais moi-même, j'ai encore un mentor encore, mais c'est comme si ce basculement, je l'ai senti. La question aussi en lien avec sa place, la place qu'on occupe, etc., elle est un petit peu plus assumée quand on vieillit versus avant. Donc, il y a plein de dimensions qui se sont comme un petit peu plus installées et qui fait en sorte qu'on est comme déposé dans elle et que finalement, on cherche autre chose. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, puis bon, je peux pas le re, je vais pas reprendre la thèse pour vous lire exactement la phrase, mais il y a une auteure qui disait que c'est comme si, aux alentours de la quarantaine, cinquantaine, c'est comme si on avait conscience du temps qui passe et du temps qui nous reste, beaucoup plus qu'avant évidemment, et en même temps qu'on avait tellement une foule d'opportunités qu'on sentait une forme d'anxiété, quelque chose qui venait nous encapsuler. Moi, j'ai aucune angoisse par rapport à la mort, ça c'est sûr. Bon, je ne partagerai pas mes croyances par rapport à la mort, mais j'ai pas du tout d'angoisse par rapport à ça. Donc, le temps qui passe, c'est que finalement, que les prochaines étapes vont être sur une longue durée ou une courte durée, je ne me sens pas anxieuse par rapport à ça. Par contre, la question de la d'opportunités, ça je le sens. Des opportunités qui sont attirées par le fait que comme on se connaît mieux, on attire des choses qui sont plus ajustées, mais de toutes sortes. J'ai jamais eu un groupe d'amis aussi juste, aussi sur mesure pour moi. Pareil dans mes projets au travail, pareil dans mes amitiés, t'sais, qui sont plus de l'ordre du loisir avec l'écurie ou j'ai comme un groupe d'amis que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas été là. Bref, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui sont comme réjouissantes, mais qui en même temps viennent mettre une pression parce que ben, on sent qu'on a comme une boulimie. Donc ça, c'était un autre éclairage. Ceci étant dit, on comprend qu'il y a un schisme, donc au mi-temps de la vie. Et là où je voulais vous amener, c'est par rapport à un éclairage vraiment très intéressant de Bolen. Bolen, c'est un Américain qui a fait une étude sur les archétypes des déesses grecques. Et je trouvais ça vraiment pertinent. C'est évidemment Chantal qui l'a mis en exergue dans sa thèse, mais c'est très très pertinent parce que au lieu de voir la crise comme quelque chose de grave, anxiogène, etc., mais en fait, on peut voir la crise, trentaine, quarantaine, cinquantaine, comme une reconfiguration de la place qu'on donne à nos différentes déesses intérieures. Donc, on a tous un cocktail de déesses qui nous représente et qui va faire en sorte que il y a un certain mélange de déesses de qui on a été jusqu'à présent qui nous a bien servi, mais quarantaine, on se redéfinit. Et c'est là où on va rechoisir le cocktail des déesses. Donc, j'espère que vous me suivez jusque-là. Et j'avais envie de vous parler de ces déesses-là, donc vous les présenter rapidement. Et après, comme ça, vous aurez en tête peut-être qui vous avez été, qui vous voulez plus être à ce niveau-là, avec autant d'intensité, et quelle déesse vous voulez redonner une place. La première déesse, c'est la déesse Héra, avec un H. C'est vraiment l'archétype de l'épouse. Je pense que Héra, c'est la femme de Zeus. Donc, c'est vraiment celle qui est dédiée à son mari, qui est finalement le pilier de sa carrière. C'est celle qui est la bonne femme, c'est pas au sens péjoratif. C'est une bonne épouse qui est vraiment présente, dédiée aussi pour la maison et qui est souvent finalement le faire-valoir de son mari, mais aussi quelque part la clé secrète de sa réussite. La deuxième, c'est Déméter et Perséphone. Ici, on a comme un couple de déesses. Donc, Déméter, c'est la maman, l'archétype de la mère. Perséphone ou Perséphonée, c'est l'archétype de la fille. Donc là, on est un peu dans un duo, fille et mère. Donc, et toutes les relations qu'il peut y avoir autour de ça, parfois un peu l'étouffement qu'une mère de type Déméter a pu mettre sur sa fille parce qu'elle voulait tellement bien faire que finalement elle a étouffé la fleur. Et Perséphone qui sait pas forcément trop s'émanciper dans le carcan de sa mère ou qu'il le fait mais toujours très maladroitement. Aphrodite, donc ça c'est la déesse, la quintessence de la déesse, c'est la déesse qui est à la fois la déesse, bon c'est la plus belle des déesses, mais quoi qu'Artémis c'est quand même pas mal, mais bref c'est celle qui est à la fois dans un grand pouvoir de séduction mais dans une forme aussi, tu sais, si on le prend maintenant, d'un point de vue plus métaphorique, cette séduction. Ce côté sexuel qu'elle peut avoir, c'est le revers aussi de quelque chose de plus profond à elle, qui est sa créativité. Donc, Aphrodite, c'est vraiment la déesse solaire en lien avec l'expression de soi. Et je vais y revenir parce que quand je vous dis ça, ça devrait sonner une petite cloche quand on parle du mi-temps de la vie. Après, on a les déesses qu'on appelle les déesses vierges, parce qu'au départ, on avait les déesses vulnérables, donc Héra, Déméter, Perséphone, c'était plus les déesses vulnérables. Déesse solaire, c'était Aphrodite, et la déesse, les déesses vierges, c'est Hestia, Thémis et Athéna. Hestia, c'est la sage, t'sais, c'est celle qui est tranquille chez elle, prie, a beaucoup besoin de solitude, adore étudier. Ça, c'est ce que j'extrapole à partir de ma propre expérience, je sais pas, mais c'est vraiment celle qui est très indépendante aussi. Artémis, c'est vraiment la guerrière, donc celle qui va voir un combat en elle-même et qui va être et qui va le mener au pour vraiment changer les choses. Donc c'est vraiment la guerrière Artémis. Elle a ce pouvoir de séduction comme Aphrodite, mais elle ne l'utilise pas, puis elle le voit même pas. Et donc elle est tournée finalement presque mariée à ses combats extérieurs pour faire changer les choses. Athéna, ben ça c'est la carriériste. Donc dit rapidement la carriériste, on dit que c'est la fille du père, mais bon c'est la fille qui se réalise dans des ambitions que pourrait avoir une figure paternelle ou un côté plus yang. Et donc c'est vraiment la carriériste qui se donne à fond dans son travail. Donc quand je vous dis ça, vous avez en tête qu'il y a Héra l'épouse, Déméter la mère, Perséphone la fille, Aphrodite la déesse solaire, Hestia la sage, Artémis la guerrière et Athéna, ben, on va dire la carriériste pour simplifier. Et quand on fait ça finalement, quand on fait le tour d'horizon de ces déesses-là, ben, on peut déjà sentir qui on a été jusqu'à notre mi-trentaine, notre quarantaine. Donc moi typiquement, ben, j'ai plus été peut-être Déméter. Je pense peut-être un petit peu Héra, mais dans une moindre mesure. J'ai beaucoup été Hestia, vraiment. Donc, tranquille, en train de méditer. Mais je pense que c'était mes trois, ben, peut-être Aphrodite aussi, mais plus malgré moi. Ben, quoique le côté créativité est quand même très fort, mais j'avais pas l'expression telle qu'on la reconnaît de Aphrodite. Donc, en gros, je jouais entre Héra, Déméter, la mère, Aphrodite et Hestia, mais si je devais classer, c'était plutôt Hestia, Déméter, Aphrodite et Héra. En gros, c'est ça. Moi, ce que j'ai senti et la poussée que j'ai sentie, puis c'est pour ça que je mets le terme, l'étiquette crise à quarantaine, c'est que mes rôles, justement, de mère et mes rôles d'épouse, qui sont pas forcément les archétypes les plus poussés, mais qui sont quand même dans mon top 3-4, mais qui ne sont pas forcément les archétypes les plus poussés, me prenaient énormément d'énergie parce que j'avais l'impression que je donnais beaucoup par rapport à ces archétypes-là. Puis ça, j'ai lu la thèse de Chantal aussi dans les parties où elle a fait bon, des groupes de discussion, des formations avec des partages, etc. C'est vraiment typique de se dire que vers la quarantaine, on se dit que on a beaucoup donné à sa famille, beaucoup donné à son conjoint. Et donc, il y a comme un retrait un peu de ces dynamiques-là pour pouvoir repositionner l'énergie qu'on a vers des choses qui sont plus de l'ordre de l'individuation. Moi, c'est vrai que j'ai quand même de la chance parce que mon Hestia était quand même présente. Donc, j'avais beaucoup de solitude, beaucoup de choses ancrées vers ma spiritualité. C'est sûr que mon côté indépendant, il est très, très, très marqué. Jessica, d'ailleurs, m'appelle la fée sauvage. Donc, on est dans un esprit où j'étais pas quand même esclave de ma famille, de Patrick. Patrick qui est quand même un homme extraordinairement moderne, t'es pour ça. On le voit d'ailleurs dans sa façon de m'accompagner, de me faire danser dans ma crise à la quarantaine. Et donc, c'est ça. Donc, tu sais, c'était pas forcément, j'étais pas malheureuse. Mais ce que je sens, c'est qu'il y a un réveil et qu'il y a comme une reconfiguration dans mes déesses. Et de ce que je vois, c'est que, bon, Héra et Déméter, finalement, elles vont être reléguées peut-être à un autre plan. Mais c'est Aphrodite Hestia et ma découverte, Artémis. Oh, ma découverte, Artémis, qui veut prendre de la place. Donc, Artémis, c'est la guerrière. Moi, ce que j'adore dans Artémis, c'est qu'elle a plein d'amis. Et elle est très très indépendante. Bon, c'est la déesse de la chasse, ça me dérange un peu, mais bon, à l'époque, hein, fallait bien chasser pour manger. Donc, bon, elle est un peu froide et dure, ça c'est pas du tout des qualités que je me reconnais, mais je me reconnais beaucoup dans ses qualités d'indépendance, de leadership, mais surtout de vouloir faire bouger les choses par rapport à une cause. Et quand j'ai fait mon retour aux études il y a quelques années pour faire une maîtrise et approfondir un thème qui m'intéresse particulièrement, qui est l'exil de la conscience, ben je sens que ça va être ça ma cause dans les prochaines années, même si ça a été amorcé un petit peu avant. Et évidemment, quand on parle de processus d'individuation, donc le processus d'individuation, c'est la capacité à regarder qui on est vraiment et à se forger un monde intérieur, mais qui va resplendir aussi à l'extérieur en fonction de nos propres repères, de qui on est vraiment. Je dirais de nos nouveaux propres repères, mais ils sont pas si nouveaux. Ils étaient juste avant étouffés par les repères extérieurs de la société. Mais là, ben, on va leur redonner une place pour pouvoir, l'image qui me vient, c'est comme, faire fondre, écraser, tasser les repères qu'on nous a, imposés de l'extérieur, de la société, du contexte, de la famille, groupe d'amis, culture, etc. Et pour pouvoir aller plus de l'avant vers notre unicité. C'est ça que Jung nous explique. Et donc, moi, dans tout ça, ben, ce que je sens, c'est que, évidemment, Aphrodite a sa grosse part, parce qu'elle, c'est l'expression même de notre créativité, de notre rapport aux autres, de notre amour quelque part aussi, parce que c'est une grande amoureuse aussi, Aphrodite. Je pense qu'elle est. Ouais. C'est une grande amoureuse. En tout cas, sa vie amoureuse est parfois compliquée, mais c'est une grande amoureuse. Elle est mariée à Héphaïstos. Mais bref, donc il y a tout ce côté-là qui comme vit une reconquête et pour moi, et aussi le côté guerrière d'Artémis. Et Hestia ben, reprend une place un petit peu plus, un tout petit peu plus nuancée, alors qu'elle avait quand même une grosse place avant, elle reprend une place un petit peu plus nuancée. J'ai jamais tant été Athéna, donc j'ai jamais été tant carriériste. En fait, je suis pas carriériste pour arriver à un but, je suis carriériste pour plus de façon à l'Artémis, c'est-à-dire pour changer les choses. Mais je suis pas dans un processus de volonté d'accumulation à outrance d'argent ou autre, plus d'accumulation des connaissances, mais dans un but de transformer la société, en tout cas. De faire valoir ma voix pour pouvoir changer les choses telles que je l'entrevois dans ma grande vision. Donc, tout ça pour dire, j'espère que vous me suivez, qu'il y a une reconfiguration, et je viens de vous donner l'exemple de ma propre personne, il y a une reconfiguration de qui on est intérieurement en fonction de nos archétypes des déesses à partir du mi-temps de la vie. Et c'est ça que finalement, on doit observer. Et donc, avec la typologie que je vous ai donnée, le livre duquel je sors la typologie, bon, même si c'est au départ la typologie de Bolland, c'est Sophie Doriona qui a écrit Nous sommes toutes des déesses, qui a écrit un livre super simple, qui se lit vraiment bien, en un ou deux jours, il est fini. Plus disponible par contre, il faut que vous alliez à la bibliothèque, mais ça va vous permettre de lire chacune des déesses et de pouvoir réfléchir finalement à c'est quoi votre ancienne configuration et c'est quoi votre nouvelle configuration. Et à côté de ça, moi, je vais vous épauler aussi parce que je veux que Chantal vienne nous parler de sa thèse de doctorat, mais aussi de ses retraites qu'elle fait sur justement soit les crises au mi-temps de la vie, soit les déesses grecques, ces deux retraites qu'elle donne. Et c'est vraiment super à chaque fois. Moi, j'ai fait une fois celle sur les déesses grecques, je la refais en juin. Mais c'est vraiment transformateur. Elle est formée aussi en psychologie rituelle et symbolique, en psychothérapie de l'image. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Elle est formée en PCI, donc elle fait beaucoup bouger notre corps pour enlever nos charges. Et elle a fait son doctorat en théologie pratique. Donc c'est très très spirituel ces retraites. C'est vraiment magnifique. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que c'était quand même assez clair. Sinon, ben, revenez pour me poser vos questions, puis j'éclaircirai les points qui ont été oubliés dans ma pensée en arborescence. Parce que c'est sûr que là, je viens de vous débiter finalement tout ce que j'avais sur le cœur ou dans le ventre, mais j'avais pas de plan prédéfini.
Ça a coupé, donc j'espère que ça a été clair pour vous. En terminant, je voulais vous dire que j'ai pas mal déjà d'inscriptions pour la cohorte de septembre pour la formation de professeur de méditation. Donc si vous êtes intéressé, sachez qu'à la fois il y a un tarif Early Bird jusqu'au 1er juin et les places se comblent tranquillement. Donc voilà, il reste peut-être une quinzaine de places à date. Alors je vous dis à très bientôt. Au revoir.